Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le numéro 91 de l'ODIJI eWeek, celui de juillet 2025. L'idée c'est de décrypter un peu les infos importantes, les tendances qui se dégagent pour le Maroc.
Oui, bonjour. Et c'est vrai que ce numéro il nous montre un Maroc, plein de contrastes. D'un côté, il y a l'été, un moment qu'on attend tous, mais qui
semble poser problème cette année.
Ben oui. Visiblement pour pas mal de monde. Sur le plan économique, les services, c'est pas simple.
C'est un paradoxe assez frappant et ça fait une bonne entrée en matière. Les vacances d'été, normalement, c'est la détente. Et là, on lit que ça peut virer au casse-tête.
C'est ça.
Le magazine parle de location saisonnière avec des prix qui flambent. 1000 dirhams la nuit pour un studio à Martil, par exemple. C'est beaucoup, non?
Ah oui, c'est énorme. Et ça... Plus le sentiment que certaines plages sont un peu privatisées, des services touristiques qui déçoivent parfois, on se demande ce que devient le tourisme local, pour les Marocains eux-mêmes.
Et ce n'est pas le seul défi sur le plan intérieur, si j'ai bien compris?
Non, loin de là. Il y a aussi, et c'est très préoccupant, l'impact de la sécheresse sur l'élevage. Les chiffres, ils sont assez durs.
C'est-à-dire?
Ben, on parle d'une baisse du cheptel national de 38% entre 2016 et 2024. 38%.
C'est considérable.
Oui. Et surtout, une chute du nombre de femelles reproductrices. Ça, c'est critique pour l'avenir. Dans certaines régions, comme l'Oriental ou Marrakech-Safi, on estime que près de 30% des éleveurs ont carrément jeté l'éponge.
Et forcément, ça se répercute sur les prix. La viande, notamment.
Exactement. Les prix ont grimpé en flèche. C'est logique. Du coup, l'État a dû réagir.
Avec un plan spécifique, oui.
Oui, un plan d'urgence assez costaud. 6,2 milliards de dirhams. L'objectif, c'est d'aider les éleveurs à alléger les dettes, subventionner l'alimentation pour le bétail, mais surtout de commencer à reconstituer ce cheptel. C'est une question de souveraineté alimentaire pour la viande rouge.
D'accord. Donc des défis très concrets sur le terrain. Mais, et c'est là où le contraste dont vous parliez est intéressant, le Maroc affiche aussi de grosses ambitions tournées vers l'avenir.
Tout à fait. C'est ça qui est frappant à la lecture.
Par exemple, sur la technologie, j'ai vu qu'il y a eu les premières assises nationales de l'intelligence artificielle à l'UM6P, près de Rabat.
Oui, à Salé. Et ça s'inscrit dans une stratégie plus large, Maroc Digital 2030. On parle d'un budget de 11 milliards de dirhams quand même.
C'est pas rien.
Non. Et ce qui est intéressant, c'est cette volonté affichée de pas seulement utiliser l'IA qui vient d'ailleurs, mais de développer nos propres modèles. Des modèles marocains, quoi.
Adaptés aux valeurs et aux besoins d'ici, oui.
C'est l'idée. Une vraie recherche de souveraineté numérique.
Et on retrouve un peu cette même dynamique dans l'énergie, non? Avec cette nouvelle usine à Jorf-Lasfar.
Ah oui, ça c'est une étape importante. La première usine marocaine de matériaux pour les batteries lithium-ion. C'est COPCO qui la lance avec une capacité visée de 40 000 tonnes. C'est une brique essentielle pour construire tout un écosystème marocain autour des batteries.
C'est stratégique.
Absolument. Et cette expertise, notamment dans le renouvelable, on pense à Nour Ouarzazate bien sûr, le Maroc cherche aussi à la partager en Afrique.
J'ai vu une mention d'un salon à Dakar.
Exactement, pour partager l'expérience marocaine avec d'autres pays du continent. C'est cette idée de coopération sud-sud qui est importante pour la transition énergétique africaine.
Donc une projection vers l'extérieur, des investissements, mais tout ça dans un contexte international qui, lui, reste assez tendu, d'après ce qu'on lit aussi.
Oui, le contexte global est compliqué. On voit par exemple l'Iran qui suspend sa coopération avec l'AIEA après des tensions.
Et puis les États-Unis qui annoncent des coupes dans l'aide internationale. D'ailleurs, il y a une étude dans The Lancet qui fait froid dans le dos, estimant que ça pourrait causer des millions de morts en plus d'ici 2030.
Ah oui, quand même. Ça donne une idée de l'ambiance générale.
Voilà, un environnement global assez instable. Et face à ça, c'est peut-être aussi pour ça que des initiatives culturelles comme le festival de Volubilis prennent tout leur sens, pour créer du lien peut-être.
C'est une bonne lecture, oui. Ce festival début juillet, sur ce site antique magnifique, près de Meknès.
Sa 24e édition, je crois.
C'est ça. Et il a justement mis en dialogue le patrimoine marocain, les Aïssawa, par exemple, avec leur musique si particulière, et des artistes venus d'ailleurs, Sénégal, Espagne. C'est une forme de diplomatie culturelle, oui, et c'est essentiel.
D'accord. Et pour finir sur une note un peu plus inattendue, j'ai vu une petite astuce dans les pages Lifestyle.
Ah, laquelle?
Apparemment, le catch-up, pour nettoyer les bijoux en métal, ternis, comme l'argent ou le cuivre. C'est l'acidité qui ferait briller.
Le catch-up? Ah, c'est original. Bon à savoir.
Plutôt surprenant, oui.
Immédiat, la sécheresse, le coût de la vie l'été, et en même temps, une vraie projection vers l'avenir.
Avec des investissements forts dans des domaines de pointe.
Oui, l'IA, l'énergie verte, les batteries, et une volonté de rayonner culturellement et au niveau régional. C'est ce double mouvement qui ressort.
Et ça nous amène peut-être à une question pour conclure. Comment est-ce que ces paris technologiques, l'IA, les batteries, tout ça, comment est-ce qu'ils pourraient, demain, aider à résoudre justement ces défis plus structurels? Je pense à l'eau, à l'agriculture, face au climat.
Bah, c'est sans doute ça le grand enjeu pour le Maroc dans les années qui viennent. Réussir à faire le pont, à connecter cette innovation, cette dynamique très moderne, aux besoins fondamentaux du pays, de la population. Trouver comment la technologie peut concrètement améliorer les choses sur ces fronts-là, c'est tout le défi.